France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction. Avec vous, Thomas Cluzel. Rebonjour.
Rebonjour, Marie. Et bonjour à toutes et à tous. Depuis le vote du budget, l'exécutif entend bien accélérer après la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le gouvernement publiait ce matin sa stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, plusieurs fois retardée ces dernières années. On détaillera par ailleurs comment le gouvernement entend financer la rénovation des infrastructures de transport, le tout sur fond de crise des finances publiques. À l'occasion de la fin du procès en appel de Marine Le Pen, on s'interrogera avec notre invité sur les causes aujourd'hui du discours populiste anti-judiciaire et puis l'actualité à l'étranger. C'est tout d'abord la visite aujourd'hui de Benjamin Netanyahu aux États-Unis pour évoquer le dossier iranien. Enfin, on tâchera de comprendre pourquoi certains parmi les 27 sont encore réticents à l'idée d'instaurer une préférence industrielle européenne. C'est totalement inédit, une loi pourtant promulguée cet été sera de retour cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte porté par le sénateur Duplomb visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur ayant déclenché une pétition avec aujourd'hui plus de 2 millions de signatures réclamant son abrogation. Il sera donc à nouveau débattu dans l'hémicycle. Alors certes, sans de vote à la clé, en clair, la portée de ces discussions ne pourra pas aboutir à la moindre modification de la loi décriée, mais c'est malgré tout la toute première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une pétition sera ainsi discutée dans l'enceinte du Palais Bourbon. Et c'est également le jour qu'a choisi le gouvernement pour publier sa stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, prévue depuis 2021. Ces dernières années, sa publication avait été plusieurs fois retardée, mais Catherine Pétillon, elle a finalement été discrètement mise en ligne ce matin.
Oui, il est loin le temps où le ministère de l'Agriculture communiquait sur la grande consultation des organisations et des citoyens pour cette stratégie alimentation et climat. Il faut dire que ce texte, qui légalement devait être publié en 2023, a connu de nombreuses péripéties, plusieurs fois annoncées puis annulées, notamment en raison d'enjeux économiques autour desquels beaucoup d'acteurs ont bataillé. Sa publication, enfin, est donc une satisfaction pour les associations, même si elles regrettent des avancées très insuffisantes concernant la publicité pour la malbouffe, l'alimentation ultra transformée et la consommation de viande. Trois sujets aux conséquences importantes pour la santé. La question surtout aujourd'hui, c'est quelle sera sa mise en œuvre ? Benoît Granier, du réseau Action Climat.
La stratégie pour l'alimentation, nutrition, climat, elle a des objectifs qui visent à avoir une alimentation plus saine et plus durable. Mais si d'un autre côté, on va vers une production agricole avec toujours plus de pesticides et d'engrais, les objectifs de préserver l'environnement et la santé des personnes en France ne pourront pas être atteints.
Car cette publication intervient alors que se tient aujourd'hui à l'Assemblée un débat autour de la loi Duplomb adoptée l'an dernier qui entérine la baisse d'un certain nombre de normes environnementales. Un nouveau texte annoncé par le même sénateur vise à réintroduire des pesticides aujourd'hui interdits en France et une loi d'urgence agricole est en préparation par le gouvernement. Le tout à quelques jours du Salon de l'Agriculture. Le gouvernement est pris entre les mobilisations pour l'environnement et celle d'une partie du monde agricole. Et la contestation est d'autant plus forte de part et d'autre que l'exécutif peine encore à articuler dans ses politiques publiques les différents enjeux en matière d'agriculture, d'alimentation et de santé.
Comment mieux financer le secteur des transports en pleine disette budgétaire ?
C'est tout l'enjeu de la loi cadre présentée ce matin au Conseil des ministres et qui prévoit une hausse des investissements à hauteur de 2,5 milliards d'euros par an pour entretenir le réseau aussi bien routier que ferroviaire. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors la rénovation des infrastructures délaissées parfois depuis des décennies doit notamment permettre de répondre aux objectifs climatiques de la France en favorisant des modes de transport décarbonés. Sauf que les opérateurs comme les collectivités regrettent en l'occurrence que le projet de services express régionaux métropolitains n'ait pas été inclus dans cette loi cadre. Et pour cause, Hakim, puisque son financement ne sera abordé qu'ultérieurement dans une loi de programmation.
Oui, Thomas, une loi de programmation qui n'est pas attendue au moins avant l'année prochaine et qui devra également résister aux différents projets de loi de finances. Sauf que ce dispositif, voulu par Emmanuel Macron et qui sera l'équivalent des RER en région parisienne, est évalué à au moins 70 milliards d'euros. Or, les collectivités ne pourront pas financer tout seul, prévient Jean-Luc Gibelin, le vice-président en charge des questions de transport à la région Occitanie.
Il faut racheter des rames de train pour pouvoir répondre, mais il y aura aussi besoin d'acheter des cars et des cars à haut niveau de service pour articuler les différents modes de transport. Donc il s'agit là de créer les moyens d'avoir des transports publics au plus près qui articulent les transports ferroviaires, les transports routiers, les mobilités actives dans et autour des métropoles un peu partout sur le territoire national.
Ces services express régionaux métropolitains représentent aussi un enjeu environnemental pour réduire les émissions de CO2 issues des voitures, rappelle Thierry Mallet, le président de l'Union des transports publics ferroviaires, qui est également le PDG de l'opérateur Transdev.
80% de la mobilité du quotidien aujourd'hui, elle est en voiture, ce qui montre qu'il y a des gens qui n'ont pas d'alternative à la voiture, notamment en périphérie. Et donc, ça va supposer d'être capable d'investir. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser tous les moyens à notre disposition, qu'il s'agisse du versement mobilité, qu'il s'agisse des contributions des communes ou du levier tarifaire.
Si tous les projets de CERN sont validés, ils profiteront à 34 millions d'usagers sur l'ensemble du territoire.
Merci Hakim Kasmi. Avant de retrouver ses homologues européens demain pour parler compétitivité et souveraineté sur le vieux continent, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Anvers, en Belgique, dans le cadre du 3e sommet de l'industrie européenne. Il y retrouvera plusieurs centaines de grands patrons avec qui il a prévu d'en échanger sur un thème qui lui est cher, celui de la préférence européenne. Plus que jamais, les 27 voient en effet le Made in Europe comme une arme de souveraineté économique. Les précisions depuis Bruxelles de Fabien Cazot.
Sur le principe, l'idée d'instaurer une préférence européenne au sein de l'Union fait son chemin parmi les 27. La France, ardente défenseur de l'idée, s'en réjouit. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, l'a même écrit aux chefs d'État et de gouvernement avant-hier. La préférence européenne est un outil nécessaire pour aider l'Europe à défendre ses intérêts stratégiques. Encore faut-il s'entendre sur les critères de définition, et c'est là que les choses se compliquent. Faut-il introduire des quotas de composants, par exemple 2/3 fabriqués en Europe, pour qu'une voiture ou un avion soit considéré comme « made in Europe », faut-il se limiter à certains secteurs, comme la chimie, l'acier ou l'automobile, mis à mal par les droits de douane de Donald Trump et par le déferlement de la concurrence chinoise? Les plus réticents, comme l'Allemagne et l'Italie, craignent que l'exigence de « made in Europe » ne renchérisse les coûts de production et donc pénalise les exportations de leurs industriels. La France plaide au contraire pour que tous ces secteurs, largement soutenus par de l'argent public européen, s'engage au moins à s'approvisionner en Europe, tout comme les entreprises étrangères qui remportent des appels d'offres publics au sein de l'Union, tout cela au nom du maintien des emplois industriels sur le sol européen.
Après la nomination l'an dernier de Richard Ferrand, l'un des fidèles du président à la tête du Conseil constitutionnel, après la nomination ce matin d'Amélie de Montchalin, pur produit du macronisme à la tête de la Cour des comptes, voilà déjà qu'une autre nomination à venir alimente les spéculations, celle concernant la future tête de la Banque de France. Lundi dernier, François Villeroy de Gallo a annoncé qu'il quitterait son poste de gouverneur de manière prématurée en juin prochain, soit un peu plus d'un an avant la fin de son mandat prévu en octobre 2027, après les élection présidentielle.
Après 4 semaines de débats judiciaires, les magistrats seront confrontés à une question politique.
Oui, Marine Le Pen doit-elle pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle? C'est aujourd'hui que la chef de l'extrême droite française connaîtra la date de la décision de la Cour d'appel de Paris. A priori cet été, ce matin, s'est ouverte la dernière journée d'audience avec les plaidoiries de la défense qui, à défaut d'une relaxe, tenteront d'arracher une sanction mesurée contre celle qui joue donc ici une 4e candidature à l'Élysée. L'occasion notamment de s'interroger. Ce procès marque-t-il un changement d'époque? Et pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Magali Lafourcade, magistrate, par ailleurs présidente de l'Institut français des droits et libertés et autrice de La justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit, paru aux éditions Les Petits Matins. Bonjour madame.
Bonjour.
Jamais sous la 5e République, les attaques contre l'institution judiciaire n'auront atteint une telle violence. Jamais autant de magistrats n'auront vu leur vie menacée. C'est ce que vous écrivez en introduction de votre ouvrage, dans lequel vous racontez donc comment la justice a souvent été pointée du doigt durant ce procès. Vous racontez comment vous avez été vous-même la cible de pression, en particulier avec la visite au printemps dernier de 2 diplomates américains qui cherchaient manifestement des éléments susceptibles d'accréditer la thèse d'un procès purement politique. Peut-être pour commencer, en quoi spécifiquement donc cette visite fait-elle événement dans votre carrière de magistrate et au-delà marque aussi un tournant peut-être pour la justice française?
Bien, on a vu à ce moment-là l'intérêt que portaient des populistes étrangers à une situation pénale qui est purement intérieure. Donc c'était une rencontre qui pouvait avoir une visée d'ingérence. Je mets des précautions puisqu'en fait je ne sais pas qu'est-ce qui était absolument l'objet de ce rendez-vous, mais clairement il y avait une recherche d'éléments pour crédibiliser un discours d'une condamnation purement politique. Et ça montre en fait qu'on est arrivé dans une autre époque où finalement, dans beaucoup de pays qui ont basculé vers l'autoritarisme, vers l'illibéralisme, la première chose qu'on attaque, c'est toujours la justice. La justice, la liberté de la presse, la concentration des médias, la société civile, mais la justice d'abord. Et le fait qu'il soit venu à ce moment-là, donc en mai de l'année dernière, avant qu'il y ait des sanctions contre des magistrats portés par les États-Unis contre des magistrats étrangers, comme le juge de Moraes au Brésil ou le juge Nicolas Guillou de la Cour pénale internationale, le juge français, on voit que ce profil a un nouveau temps où des choses qui nous paraissaient même pas concevables deviennent entrent dans l'éventail du possible.
Dans le dernier baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, on apprenait que 76% des personnes interrogées estiment que les dirigeants politiques sont plutôt corrompus, contre seulement 22% qui les considèrent plutôt honnêtes. Et dans le procès de Marine Le Pen, comme celui de Nicolas Sarkozy, on se rend compte que c'est la classe politique qui affirme que les juges seraient des ennemis de l'intérieur. Vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage d'un populisme anti-judiciaire. Est-ce que vous diriez qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de révisionnisme juridique?
Oui, c'est le mot que j'utilise. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai révisionnisme à l'œuvre qui veut changer notre ordre constitutionnel. Donc c'est très profond. Les attaques contre la justice ne sont que le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond sur l'état de droit, la hiérarchie des normes et sur les principes qui sont presque civilisationnels chez nous. Mais pour revenir sur le CEVIPOF et cette enquête qui est extrêmement intéressante, on peut voir que c'est une façon aussi de sanctionner cette stratégie victimaire et complotiste qu'ont nos responsables politiques actuellement, qui n'étaient pas des responsables politiques qui sont mis en cause et qui sont victimaires et complotistes. On en a vu beaucoup dans l'histoire et de tout parti politique. Sauf que quand on voit en 2017, la dernière fois où il y a eu une grande affaire, c'était l'affaire Fillon, la classe politique se désolidarise de lui. Même son directeur de campagne claque la porte. Et là, on a au contraire une classe politique qui se soude derrière Marine Le Pen, bien au-delà des alliés revendiqués ou objectifs. Et pareil, après l'affaire concernant l'affaire libyenne, donc Nicolas Sarkozy, où on a énormément de responsables politiques qui se soudent. Et là, ce qu'on constate avec ce baromètre, et ce qu'on a vu aussi dans d'autres sondages qui ont été faits au plus cœur de ce récit victimaire complètement de l'ordre du storytelling qui disait que le juge était en fait l'ennemi de l'intérieur, finalement, on voit que c'est les politiques qui sont le plus abîmés, et là, finalement, la justice en sort plutôt digne, c'est-à-dire que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'exercer son métier quand on est magistrat.
Malgré tout, on se rend compte que si les forces réactionnaires ont besoin de casser ce lien entre le juge et le citoyen, en réalité, ce procès ne semble pas avoir beaucoup entaché l'image de Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe malgré tout, où finalement ce procès a été employé comme un levier électoral par le RN?
Alors, ce qu'on voit, c'est que tous les responsables politiques, les leaders politiques qui sont de premier plan, utilisent les médias, les micros qui leur sont tendus pour faire le récit qu'ils veulent. Je crois qu'il y a plutôt un énorme désenchantement vis-à-vis de toute la classe politique, puisque tous les partis politiques ont été cernés par des affaires, et que ce que ça traduit, c'est ce sentiment d'une corruption rampante dans le pays, très inquiétante. Et aujourd'hui, je constate que malheureusement, dans l'espace politique, plus personne ne porte le sujet de la probité. Il n'y a plus un responsable d'ampleur qui porte ce sujet-là. Et on voit là qu'il y a une différence assez forte entre ce que les gens se disent au quotidien, dans les cafés, devant les écoles, et ce débat politique qui n'est plus du tout là-dessus.
Une dernière question, malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Toute cette année 2026 sera particulièrement riche en procès de dirigeants politiques. Marine Le Pen, on l'a dit, Nicolas Sarkozy, Sofia Chikirou, Rachida Dati. Quels sont les garde-fous, en quelques mots, dont nous disposons aujourd'hui pour protéger l'état de droit?
Alors, dans la Constitution, le garde-fou, c'est le président de la République qui doit garantir l'indépendance de la justice et le fait qu'elle puisse être menée sereinement. On a vu que après les propos de Rachida Dati, quand elle a appris qu'elle était renvoyée en correctionnel, il avait apporté son soutien à sa ministre de la Culture. Donc les magistrats se sentent aujourd'hui très seuls. Et donc finalement, les garde-fous, c'est, je dirais, les magistrats eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent expliquer davantage, puisque le citoyen a envie de comprendre. Et la justice n'est pas un service public de proximité, donc il y a une forte méconnaissance qui permet aux populistes de raconter absolument n'importe quoi. Donc je crois qu'on doit être nombreux à aller expliquer comment ça fonctionne et quelles sont les procédures et l'importance de l'impartialité qui est au centre de l'office du magistrat.
C'est bien compris. Merci Magali Lafourcade, magistrate, donc présidente de l'Institut français des droits et libertés, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc La justice en procès, paru aux éditions Les Petits Matins. Et merci également à Aline Biette pour la préparation.
Merci à vous.
C'est peut-être le dernier acte judiciaire dans un dossier devenu emblématique des accusations de violence et de racisme contre les forces de l'ordre.
C'est aujourd'hui que la Cour de cassation doit dire si l'enquête sur la mort d'Adama Traoré, décédé en 2016 après son interpellation, peut être ou non relancée.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Si ce n'était la complexité, voire la dangerosité des sujets abordés à chacune de leurs rencontres, on serait presque tenté de parler de visite de routine. Pour la 7e fois en à peine plus d'un an, Benjamin Netanyahu est attendu aujourd'hui à Washington. L'occasion pour le Premier ministre israélien menacé chez lui d'élections anticipées de glaner un peu de capital politique en s'affichant auprès de son ami Donald Trump. L'occasion aussi surtout de faire pression sur le président américain pour le convaincre d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran. En attendant, eh bien, la question prioritaire reste toujours sans réponse. Elle concerne l'après. La pression exercée aujourd'hui sur la République islamique est-elle susceptible d'améliorer le sort des Iraniens, ou bien Américains et Israéliens s'accommoderont-ils du régime d'Emollah dès lors qu'il servira leurs propres intérêts? Pour l'heure, la position de Donald Trump sur ce dossier demeure relativement ambiguë, entre l'espoir de parvenir à un accord et la menace de lancer une opération militaire. En revanche, Thibault Lefebvre, l'objectif semble beaucoup plus clair s'agissant de Benjamin Netanyahu: mettre fin aux ambitions nucléaires de son ennemi et limiter ses capacités balistiques.
Alors d'abord vous dire, Thomas, que le Premier ministre n'a pas été invité à Washington, mais s'est invité. Il y a évidemment pour ça des raisons politiques. Une photo avec Donald Trump rassure ses partisans en pleine année électorale. Et puis Benjamin Netanyahu voulait sans doute avancer son voyage pour éviter de s'afficher la semaine prochaine avec la vingtaine de membres du Conseil de la paix réunis pour échanger sur l'avenir de Gaza. Israël n'a pas ratifié la charte de cette nouvelle institution pilotée par Donald Trump, et le Premier ministre ne voit pas d'un bon œil un processus actuellement figé et qui pour le moment permet au Hamas de se renforcer. Mais le cœur des discussions va porter ce soir sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Benjamin Netanyahu craint plus que tout que Donald Trump ne lui impose ce qu'il considérerait comme un mauvais accord. Pour faire simple, le président américain a pour le moment accepté de n'évoquer avec Téhéran que la question nucléaire, alors que pour Netanyahu et l'écrasante majorité des Israéliens, les pourparlers doivent être élargi au programme de missiles balistiques et au financement des alliés de l'Iran, comme les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban. C'est pour Israël une question de vie ou de mort, et pour Netanyahou, un combat qu'il mène depuis plus de 20 ans.
Bien que sans cesse classé parmi les guerres oubliées, le conflit qui déchire le Soudan depuis 2023 n'en reste pas moins toujours la plus grave crise humanitaire au monde. La famine déjà installée dans le Darfour menace désormais de s'étendre au Kordofan, cette vaste région fertile, riche en pétrole, devenue le nouveau front le plus disputé entre armées régulières d'un côté et paramilitaires de l'autre. Selon le Programme Alimentaire Mondial, ces stocks d'aide pourraient s'épuiser d'ici la fin du mois de mars.
Et la baisse des aides publiques au développement justement risque d'entraîner des millions de morts dans le monde.
C'est le constat dramatique dressé par la fondation Rockefeller. On parle là de coupes qui se montent à plus de 31 milliards au niveau mondial et qui pourraient coûter la vie à près de 23 millions de personnes d'ici 2030, dont plus de 5 millions d'enfants. Alors cette chute rapide, brutale, se vérifie partout à l'international et notamment en France, avec 800 millions d'euros en moins dans son budget 2026, voté il y a tout juste une semaine. De quoi forcément Nathanaël Charbonnier inquiéter toutes les structures associées, associations, ONG, fondations qui travaillent dans le domaine de l'aide humanitaire.
Pour certains, ces 800 millions ne sont que des chiffres. Pour d'autres, ils représentent des vies à sauver. L'association ASMAE, l'association de Sœur Emmanuel, prévoit 2 millions de budget en moins et parle déjà de non-assistance à enfants en danger, alerte son directeur général, Adrien Salaise.
Alors pour les actions d'ASMAE, ça veut dire 12 000 enfants qui ne seront plus bénéficiaires de nos projets dans 6 pays dans le monde. Recul de santé, recul de soins psychosociaux, et des mauvaises préventions, des risques vitaux pour les enfants.
Davide Razzella est chercheur à Barcelone. Lui et son équipe estiment que les coupes budgétaires françaises vont coûter des vies, peut-être plus d'un million. Le chiffre définitif est attendu dans les semaines à venir. Mais en attendant, il est catégorique. Oui, au niveau mondial, ces coupes auront des conséquences dramatiques.
Ce que nous démontrons ici, c'est que nous ne parlons pas de quelques vies. Nous parlons vraiment de millions de vies. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de nos résultats. Des groupes indépendants qui utilisent des données différentes, une méthodologie différente, aboutissent au même résultat.
Des vies en sursis et des sommes colossales à trouver pour combler les coupes, puisqu'elles représentent près de 20% de l'aide mondiale.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, toujours marqué par une dégradation pluvieuse qui affectera l'ensemble du territoire. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malraie. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.